Mesdames, messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette émission L'agriculture de demain. Aujourd'hui, à l'entour de la table, M. Michel Saint-Pierre, M. Guy de Bailleul et à l'animation, M. Simon Bégin. Messieurs, bonjour.
Bonjour, Sébastien. Alors, écoutez.
Bonjour, Sébastien.
Oui, alors aujourd'hui, on va faire une émission qu'on pourrait appeler plus éditoriale, dans le sens que c'est une réflexion qu'on fait entre nous au niveau de l'Institut. Mais ou alors aussi une invitée très spéciale, Mme Claire Binette. Claire, parce que c'est une vieille connaissante, une vieille amie. Claire, qui a un parcours très particulier. Je pense, Claire, on peut dire que tu as passé toute ta vie les deux pieds dans la protection du territoire agricole. Tu as été d'abord au cabinet de M. Garon, mais en même temps, toutes sortes de fonctions qui t'ont toujours amené à t'intéresser à ces questions-là. Et je pense qu'on peut te considérer comme une des grandes expertes au Québec sur ces enjeux-là. Mais écoute, d'abord, j'aimerais ça qu'on vous parle. On est ici ce matin pour vous parler des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT. Pourquoi on pense que c'est important? Parce que, d'une part, il y a au cours de l'été, le gouvernement vient d'annoncer qu'il y aura une consultation en ligne. Tout le monde pourra participer. Et le but ce matin, c'est un peu d'éviter les producteurs agricoles qui sont préoccupés par les enjeux de protection du territoire agricole à participer à cette consultation-là, à se faire entendre parce qu'il y a de grands enjeux. Alors, qu'est-ce que c'est que des orientations gouvernementales en aménagement du territoire? Il faut dire que seules ces orientations-là qu'on va actualiser en 2023, ben, elles remontent à 1994, quand même. C'est peut-être pas un grand luxe de prendre le temps de les reviser. Alors, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ça découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça vient dire aux municipalités du Québec, qu'il s'agisse de Montréal ou de la plus petite municipalité dans une MRC en région, de quoi elles doivent tenir compte lorsqu'elles font, d'une part, au niveau des communautés métropolitaines et des grandes DMRC, ce qu'on appelle le schéma d'aménagement et de développement, le SAD, qui va baliser qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire. Et dans le cadre de ce schéma-là d'une MRC, ce que chaque municipalité individuelle doit tenir compte dans l'élaboration de son plan d'urbanisme. Alors, il faut bien comprendre que c'est la base de l'édifice, un édifice à plusieurs étages, mais au bout duquel il y a un règlement municipal qui va déterminer quelle est la zone d'urbanisation et donc là où commence et finit la zone agricole. Donc, c'est très important, dans le fond, de bien comprendre l'enjeu qui est lié à cette outil un peu obscur, peu connu, que sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Alors, le gouvernement vient d'en publier, je crois que c'est neuf nouvelles orientations qui vont dicter un peu comment ce qu'on peut faire et comment aménager le territoire du Québec. Et dans ces orientations, il y en a quelques-unes qui touchent directement le territoire agricole, entre autres la recommandation numéro 3. Je me permets peut-être de la lire, ça vous donne une idée là, un peu des intentions gouvernementales. Alors, cette orientation numéro 3 en aménagement du territoire se lit comme suit. Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, la mise en valeur de son plein potentiel et à créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. Comme on dit, personne ne peut être contre la vertu.
C'est très vertueux.
Hein? Alors, on dit aussi, le diable est dans les détails, alors il faudra voir qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de cette réflexion-là. Peut-être pour aussi situer un contexte un peu plus large, on doit rappeler que tout ça s'inscrit un peu aussi dans ce qu'on a appelé la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Alors, c'est sûr que c'est des vastes concepts, mais comme je le disais, au bout de la ligne, il y a des implications très concrètes pour les producteurs agricoles du Québec. Alors, cette nouvelle politique-là a été rendue publique en juin 2022. Il y a eu une vision stratégique qui a suivi. Il y a eu de vastes consultations. Et on devait avoir cet hiver, puis ça a été retardé au printemps, et puis là, on ne sait plus trop quand. Il devait y avoir le plan de mise en œuvre de cette nouvelle politique nationale d'aménagement et d'architecture. Un plan de mise en œuvre où on va voir vraiment les mesures concrètes où on va voir les budgets. Alors ça, on est encore en attente et peut-être que, ces retards-là peuvent permettre d'avoir certaines inquiétudes. Alors, écoutez, mais pour en venir à nos orientations gouvernementales en matière de nos territoires, peut-être aussi en terminant, avant d'amorcer la discussion, rappeler qu'ici à l'Institut, ça fait quand même un certain temps qu'on se préoccupe de l'état des lieux en matière d'aménagement du territoire. En 2019, on a tenu un colloque sur le 40e, pour souligner le 40e anniversaire de la loi. Il y avait eu quand même des recommandations transmises au gouvernement, d'une part, d'être très vigilant, de resserrer, de renforcer la loi dans les zones là où il y a vraiment des grands potentiels agricoles, tout en étant, en introduisant certaines souplesses dans des régions plus dévitalisées. Alors, sûr que ce sont des orientations qu'on doit dire qu'on retrouve un peu encore déjà dans ce que le gouvernement nous propose. Et on a aussi, au fil des années, intervenu à différentes occasions auprès de commissions parlementaires qui se penchaient sur ces questions-là. Écoutez, d'entrée de jeu, peut-être, Michel, j'aimerais te peut-être inviter à avoir peut-être une première réaction sur ce que tu vois dans ces orientations gouvernementales.
Ce que je vois, c'est des principes, des beaux principes. Je pense que la simple lecture de l'orientation 3, bon, tu peux pas être contre cette vertu-là, on en a parlé. Sauf que à la lecture, on s'aperçoit que c'est pas très ferme, c'est pas très étanche. Hein? Il y a des ouvertures un peu partout qui permettraient, bon, selon des considérations particulières, d'extraire une partie du territoire de la zone ou de la compenser par une autre, mais encore là, une autre qui serait dans la même zone, mais non en friche. Des choses assez particulières de ce côté-là. Mais ce que j'aimerais peut-être juste revenir sur le fait que il y a quand même un côté qui a évolué dans le sens de tenir compte là, depuis peu de temps quand même, mais on parle davantage de tenir compte des nouvelles réalités, des modèles de fermes qui ont évolué depuis l'adoption de la première loi sur la protection du territoire agricole. Donc, il y a quand même quelque chose, comme il y a eu quelques amendements introduits par une loi omnibus, la loi 102, si ma mémoire est bonne, qui disait « faut en tenir compte ». Mais pour le reste, moi, ce que j'aimerais savoir, puis qui peut m'éclairer là-dessus, cette orientation gouvernementale-là, c'est un processus. Ça chemine comment? Ça s'en va vers quelque chose de plus ferme, qui a force de loi, parce que dans la lecture actuelle, c'est pas quelque chose qui est très contraignant, là. Hein? Mm-hmm. C'est justement ce qu'on y reproche, de ne pas avoir assez de contraintes. Mais est-ce que quelqu'un peut m'orienter sur le fait que la prochaine étape, ça va être quoi? Puis la suivante, ça va être quoi? Puis est-ce qu'à la fin, il va y avoir quelque chose d'étanche et fermé?
Effectivement, comme je le mentionnais, on est toujours en attente des gestes concrets qui vont venir donner corps à toutes ces belles idées-là qui sont sur la table. Maintenant, Guy, de ton côté, tu as peut-être des commentaires à faire aussi là, sur une première lecture de ces grandes orientations.
Oui, ben, sur un certain nombre de points, je rejoins les positions de Michel. Il y a quand même une certaine ouverture à laquelle on n'avait pas été trop habitué. Et en ce qui concerne effectivement la priorité à accorder aux activités agricoles, excusez-moi, au territoire agricole, une redéfinition de la façon dont il faut le concevoir et donc éventuellement le préserver. Donc ça introduit un peu les nouvelles réalités auxquelles faisait allusion Michel. En même temps, il y a encore, comme le disait Simon tout à fait au début, le diable peut être dans les détails. Il y a des choses qui sont pas précisées ou au détour d'une phrase, on nous indique qu'il faut autant que faire se peut éviter d'utiliser le territoire agricole pour le développement urbain. Mais si c'était indispensable, à ce moment-là, il faudrait voir des mesures de compensation. Et on s'aperçoit que dans les mesures de compensation, par exemple, on peut réintroduire dans le territoire agricole des choses qui sont déjà dans le territoire agricole. Je parle des friches, des zones agricoles qui sont en friche. Elles sont dans le territoire agricole, mais on pourrait les recomptabiliser. Donc, on s'aperçoit qu'il faut être très attentif à ce genre de détails. Par contre, à l'opposé, je vois mentionner que en ce qui concerne le développement de la sériculture, quand il s'agit de serres qui sont appelées à avoir un développement vertical, ben rien n'indique qu'elles doivent être en territoire agricole. Et ça, c'est une précision importante. C'est-à-dire qu'effectivement, une activité agricole en forme de serre, ben, elle peut se faire en dehors du territoire agricole parce que ça devient une activité quasiment industrielle. Il y a donc toute cette combinaison de petites choses auxquelles il faut être attentif. Puis je noterai aussi, comme dernière remarque, c'est que les municipalités, les MRC avaient été invités il y a un certain nombre d'années à consacrer beaucoup d'efforts au plan de développement de la zone agricole, et elles étaient invitées aussi à le remettre à jour aussi souvent que c'était nécessaire. Et là, on mentionne à un moment donné l'existence de ces plans de développement, mais on a l'impression qu'en fait, on est passé à autre chose. Alors, je reste sur une certaine ambiguïté là-dessus.
Alors, écoutez, moi, pour ma part, ce qui m'a frappé peut-être du côté positif de ce que j'ai vu, d'abord, il faut dire que c'est une lecture un peu rapide et préliminaire, il semble y avoir quand même une ouverture à ce que l'Institut défend depuis longtemps, c'est la diversité des modèles de l'agriculture. On semble laisser plus de place à une certaine souplesse dans le type de modèle agricole qui doit avoir leur place sur le territoire agricole. D'un côté plus inquiétant, moi, je me rappelle quand la loi a été adoptée, il y a eu dans un premier temps des zones agricoles provisoires. Et l'idée était de, une fois que ces zones-là étaient rendues publiques lors du dépôt de la loi, de s'asseoir avec les municipalités pour négocier ce qui devait être la zone permanente. J'insiste sur le mot « permanente » parce que ce qu'on a vu au fil des décennies qui ont suivi, c'est une interprétation très, très large du mot permanente. Et dans ce qu'on a dans les orientations gouvernementales, on voit pas beaucoup de retour à une notion de zone agricole permanente, dans le sens que, comme on le mentionnait, il y a beaucoup de possibilités de s'accommoder, beaucoup de possibilités de permettre quand quelque chose est défini comme étant essentiel. Mais qui va le définir, ce concept d'essentiel? Est-ce que... on a vu... en fait, dans ce qui est devant nous, il n'y a rien qui aurait empêché les grandes décisions récentes qu'on a pu contester, l'implantation d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges en pleine zone agricole, l'implantation d'un grand centre Google en pleine zone agricole. Il y a eu des décisions là qui ont vraiment repoussé du revers de la main les concepts de protection du territoire agricole pour faire place à des choses qu'on disait essentielles. Alors, dans ce qu'on a devant nous, je vais te comprendre, discuter après la pause, je vois pas de resserrement de cette notion de zone agricole permanente. Alors, oui, on est déjà rendu à la pause et au retour, on va recevoir notre ami Claire Binette qui pourra nous faire un certain retour sur ce qu'on peut appeler malheureusement le lent affaiblissement de la loi de protection du territoire agricole au cours des années. Alors, à bientôt. À tout de suite.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée, laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise. La Vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La Vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solution Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Alors, nous sommes de retour à l'émission « L'agriculture de demain » où aujourd'hui, on a peut-être un volet éditorial parce qu'on essaie de dire ce qu'on pense et aussi un volet informatif important car on veut sensibiliser nos auditeurs, principalement les agriculteurs, à la tenue en cours présentement d'une consultation en ligne sur les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Orientations qui sont à la base de toute la mécanique d'aménagement du territoire, schéma d'aménagement, plan d'urbanisme, délimitation des périmètres d'urbanisation, qui ont un impact majeur sur la délimitation du territoire agricole. Alors, je pense que c'est assez important que les gens soient informés de ce processus et puissent, à l'occasion, y participer. Alors, en deuxième partie d'émission, on a le plaisir de recevoir notre amie Claire Binette. Claire, comme je vous le disais au début, tu es peut-être une des personne les plus au fait, qui a suivi ça depuis le tout début, là, l'évolution de la protection du secteur agricole, la loi et son application. Maintenant, je sais que à la première lecture de ces nouvelles orientations, tu as eu une certaine inquiétude, comme nous, je pense que tu peux y voir des aspects positifs, mais en même temps, je pense que peut-être tu as vu là-dedans, dans ces nouvelles orientations, la suite de ce que tu as pu constater au fil des ans un affaiblissement progressif de la protection du secteur agricole du Québec. Alors, peux-tu nous parler un peu de cette évolution que tu as pu constater au fil des ans et qu'est-ce que t'inspirent les nouvelles orientations proposées?
Merci, Simon. Bonjour tout le monde. En fait, je vous dirais que non seulement j'ai été un peu initié au dossier en étant au cabinet de M. Garon, mais j'avais aussi, avant ça, travaillé à la mise en œuvre de la loi dès la première année comme analyste à la CPTA. Alors, j'ai vu les tout débuts là, du petit bébé qui était cette loi-là. Et maintenant, après 45 ans, on peut effectivement constater qu'il y a eu un affaiblissement progressif. Il y a eu différentes choses qui se sont passées au fil des ans. Tout à l'heure, Simon t'a parlé de la permanence de la zone agricole, que maintenant on utilise le terme pérennité. Il y a eu effectivement au début, avec le dépôt de la loi, un plan provisoire qui a fait l'objet d'une négociation par la suite avec les municipalités pour une zone permanente. Mais on a eu dans les années 87 à 92 une révision de la zone agricole qui a été pas une petite révision de détails, mais une renégociation complète à partir de certains choix politiques gouvernementaux et qui ont radicalement changé les choses. On a eu 200 000 hectares qui ont été exclus de la zone agricole à ce moment-là, dont à peu près entre le quart et le tiers qui étaient dans la grande région de Montréal où on trouve les meilleures terres. Alors actuellement, on voit beaucoup d'urbanisations se manifester par des constructions, par exemple en Montérégie, lorsqu'on est sur l'Avin, à Sainte-Julie, Chambly, dans ce coin-là. Et on pense que c'est des autorisations récentes de la CPTA, mais c'est généralement des choses qui se construisent sur du territoire qui a été exclu de la zone agricole lors de cette révision qui remonte à maintenant pas loin de 30 ans. Alors, on a, à ce moment-là, sorti beaucoup de l'eau de la zone agricole, qui était soit en friche, soit sous spéculation, et qui ont constitué une grande banque de développement. Par exemple, le complexe 10-30, dont on parle de temps en temps à Brossard, est carrément sur du territoire comme ça. Il y a eu aussi différentes autres interventions qui sont venues répondre à des demandes ou des pressions ou des attentes. Par exemple, il y a eu l'introduction d'une mesure dans la loi au tournant des années 2000 pour éviter des demandes individuelles très, très nombreuses pour des constructions résidentielles. On a établi les demandes à portée collective qui visent à circonscrire certains espaces, supposément qu'on pourrait appeler des îlots déstructurés en zone agricole, pour dire ben il y a des trous entre des maisons, on va remplir ces trous-là, puis ça va éviter des demandes multiples. Puis en même temps, ça va répondre à un certain besoin. Il y a eu aussi d'autres mesures un peu plus larges sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais disons qu'il y a eu une certaine réponse et que cette réponse-là, elle s'est traduite sur le territoire, effectivement, par des îlots déstructurés, par une caractérisation de la zone agricole. On a, d'une part, les îlots déstructurés, ensuite, on a les zones agricoles plus intensives qu'on appelle dynamiques, et d'autres qui sont peut-être moins intensives, où les sols sont de moins bonne qualité, où l'agriculture est moins présente, parfois c'est de l'agroforestier. C'est comme si ça faisait une zone agricole de deuxième niveau, là. Alors, dans les orientations qui sont présentées actuellement, on sent très clairement que ces trois catégories d'éléments en zone agricole, soit les îlots déstructurés, les zones dynamiques et les zones qu'on appelle viables, n'ont pas accès au même type de protection. Et c'est le premier élément que j'ai noté parce qu'un peu partout, on parle d'une protection particulière pour les meilleurs sols. Quand je dis particulière, je suis même généreuse, c'est que éviter l'empiètement urbain sur les meilleurs sols, mais le reste, c'est moins grave.
C'est toujours cette notion d'éviter le plus possible. Alors, c'est le plus possible est toujours un petit peu inquiétant.
Ouais, mais ça, c'était déjà présent dans les orientations gouvernementales qui concernait spécifiquement la zone agricole depuis 2001 et 2005. On a un peu reconduit ça en changeant un petit peu le vocabulaire. Mais il n'y a pas beaucoup de neuf. Puis tantôt, je pense que M. Saint-Pierre disait, je cherche à voir vers où ça s'en va, ça. Ben, en fait, les orientations gouvernementales qui sont déposées comme pour consultation, c'est quand même l'aboutissement de toute une démarche qui a commencé avec les consultations et la mobilisation d'un grand nombre d'organisations autour de la préparation de la fameuse politique qui a été rendue publique l'année passée et qui, à certains égards, est loin de répondre aux attentes ou à certains besoins. Par exemple, je fais juste une parenthèse, j'allais peut-être en parler, la question de la fiscalité municipale est majeure et ce n'est pas abordé alors que initialement ça c'était prévu. Et c'est le grand absent. Il y a eu un projet de loi déposé en mars dernier qui fait partie du plan de mise en œuvre, même si on n'en connaît pas tous les détails. Ce projet de loi-là modifie un certain nombre de choses, notamment dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais ne touche pas du tout la question de la fiscalité municipale et est totalement muet aussi sur la question du territoire agricole, à tel point que un certain nombre d'acteurs ont dit que cette loi-là, ses problèmes, c'était pas ce qu'il y avait dedans, mais ce qu'il n'y avait pas. Après ce projet de loi 16, qui a fait l'objet d'un certain nombre de consultations à l'Assemblée nationale, il y a eu des mémoires qui ont été déposées, mais qui répondaient à ce qui était là. On ne va pas parler de ce qui n'y était pas. Là, on a le dépôt de ces orientations gouvernementales. Et en disant que là, ça aussi, on a mis à contribution les mêmes organisations, mais dans quelle mesure on a tenu compte de leurs propositions, je ne le sais pas.
Non.
Par exemple, on a l'UPA, on a l'Ordre des urbanistes, on a plein d'organisations qui ont participé, mais jusqu'à quel point on a retenu ce qu'ils ont dit, on ne le sait pas.
Michel,
et là, mentionner, il y a une consultation en ligne, oui, mais il va en avoir une sur le plan régional, on y reviendra tout à l'heure.
Non, j'en étais assez, justement, ce point-là, on est en consultation. D'abord, ça arrive à un moment de l'année où on a moins la tête là, c'est absolument certain. Mais cette consultation-là, est-ce qu'elle va aboutir quelque part? Est-ce que ça va donner par la suite quelque chose d'un peu plus ferme, un peu plus achevé que des principes? Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va?
Ben, on peut l'espérer, mais en tout cas, pour ce que je connais de ce type de processus-là, je ne dirais pas, comme certains seraient portés à dire, la montagne accouche d'une souris, mais c'est certain qu'entre ce qu'il y a au départ comme matériel de discussion et ce qui en résulte à l'autre bout, il y a souvent une grande distillation, pour ne pas dire une réduction. Maintenant, la consultation, elle est surtout en ligne, mais j'ai vu ce matin sur le site du ministère des Affaires municipales qu'il va y avoir des rencontres régionales entre le 1er juin, ça c'est dans 3 jours, on commence par Montréal, Laval et Longueuil, et ça va se terminer au début juillet, il y a une tournée. En fait, il n'y a pas de détails qui précisent où ça va avoir lieu, qui l'organise, c'est vraiment mystérieux. Alors, s'il y a des gens qui veulent, parce que ça, c'est pas une participation en ligne, c'est des rencontres. Alors, on ne sait pas qui, quand, comment, où. Ouais. Alors, on pourrait peut-être inviter vos auditeurs intéressés à se renseigner auprès du bureau régional du MAPAC, qui devrait normalement faire partie prenante de ce processus-là, ou s'il y a un bureau régional des affaires municipales, mais on ne le sait pas. C'est mystérieux.
D'accord. Michel, toi qui es un ancien sous-ministre de l'agriculture, est-ce que dans tout ce processus-là de réflexion sur l'aménagement du territoire et entre autres le temps agricole, on ne sent pas beaucoup le MAPAC, me semble.
Non, bien voilà, ça c'était une question, parce que justement que j'allais adresser à Claire, lorsqu'on parle de gardien là, du territoire agricole, là, on devrait normalement citer au premier chef le ministère de l'Agriculture. Il semble que les gardiens sont la société civile plus que le ministère de l'Agriculture là-dedans. Mm-hmm. J'ai l'impression, quand j'étais là, j'ai poussé beaucoup sur le président, j'ai trouvé son nom finalement, qui était là à l'époque, qui s'appelle Roger Lefebvre, pour que la commission elle-même soit active dans la réflexion, dans ce qui se passe, là, et non pas qu'elle soit essentiellement en mode d'application des lois et des règlements qui sont devant elle. Je voulais qu'elle nous dise comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer cette loi-là avec vraiment les grands principes là, qui sont là. Ça n'a pas donné grand-chose, pour être franc.
Écoutez, on arrive déjà à la fin de notre émission. Le sujet est très vaste. Une petite demi-heure ne suffit pas. Nous, ici à l'Institut, on va certainement suivre ça de très près. On va participer à ces consultations-là. Et on a le projet de tenir, au cours de l'été, une table ronde. Les paramètres ne sont pas encore déterminés, mais j'invite nos éditeurs à rester à l'écoute. On va essayer de réunir des gens qui ont réfléchi longtemps, qui ont des choses à dire sur l'enjeu de la protection du terrain agricole pour peut-être de certaine façon inviter le gouvernement à beaucoup de rigueur, disons ça comme ça, beaucoup de rigueur lorsqu'il touche à ces grands mécanismes-là que sont les mécanismes d'aménagement du territoire et de protection du territoire agricole. Alors, merci beaucoup, Claire.
Merci, Claire.
C'était très éclairant et on aura sans doute l'occasion d'en reparler.
C'est un jeu de mots que tu viens de faire là, mais quand même. Avec Claire, c'est éclairant. Tout le
temps. Avec Claire, c'est éclairant. Oui, d'accord. OK, à bientôt.
À bientôt. Bonne journée.
Merci.